Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme à Grande-Synthe, c'est le jour des obsèques de Philippe Kopmann qui auront lieu à partir de 14h30 tout à l'heure. Philippe, je vous le rappelle, qui a été lynché et battu à mort, très probablement dans le cadre d'une affaire de guet-apens. Pour ces obsèques, des centaines de personnes sont attendues. Il y aura sans doute autant de monde que lors de la marche blanche où l'émotion et la colère étaient à fleur de peau. Nous sommes sur place, évidemment, nous allons en parler. Une fratrie connue pour de graves faits de délinquance expulsée de son HLM dans le Val-d'Oise. Soulagement des habitants qui aspirent bien sûr à la tranquillité et à la sécurité. Reportage à suivre. Et puis pour les Jeux Olympiques, le gouvernement est-il prêt à tout ? Alors en ce qui concerne les pré-retraites à la SNCF, c'est le président de la SNCF qui a négocié avec les syndicats. Mais ne nous y trompons pas, c'est le gouvernement qui adoube pour éviter tout embrasement social avant les JO. On va en parler alors que plane une menace sur les aiguilleurs du ciel, même si les discussions semblent avancer en ce moment. Mais à quel prix? On vous posera la question. Voilà pour le programme. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Place au journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Qu'est-il arrivé à Kenji Girac? L'enquête se poursuit. Les premières expertises révèlent que la balle qu'il a touchée aurait été tiré dans sa caravane. Alors on va retrouver Augustin Donadieu. Bonjour Augustin, vous êtes à Pessac, devant l'hôpital où se trouve actuellement le chanteur. Et selon les derniers éléments, l'hypothèse du tir accidentel reste privilégiée.
Effectivement, et vous l'avez dit, les premières expertises balistiques viendraient confirmer qu'effectivement, ce tir qui a blessé Ken Girac dans la nuit de dimanche à lundi aurait eu lieu dans la caravane du chanteur. Alors plusieurs proches de l'artiste de 27 ans ont été auditionnés, vous le savez, et selon les premières auditions, eh bien, les versions ne viendraient pas contredire celles de Kenji Girac qui parlait d'une manipulation seule avec un tir accidentel. Alors les auditions rapportées par nos confrères du Parisien viennent également confirmer les nombreux témoignages de gens du voyage qui sont venus à notre rencontre avec Florian Paume ici à Pessac, à l'hôpital où est hospitalisé Kenji Girac. Des témoignages de personnes qui évoquaient des tensions dans le couple entre Kenji Girac et sa compagne et qui évoquaient également une soirée de dimanche à lundi très alcoolisé avec des tensions sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Le procureur de Mont-de-Marsan, qui a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire, a dit qu'il reprendrait la parole dès lors que Kenji Girac aurait été entendu par les enquêteurs. Kenji Girac qui sera entendu par les gendarmes dès lors que son état de santé le permettra. Nous savons que les nouvelles concernant sa santé sont bonnes. Il reste tout de même hospitalisé. Son audition pourrait avoir lieu dans les prochaines heures.
Merci beaucoup Augustin Donadieu et merci à Florian Paume donc, qui vous accompagne. Dans le reste de l'actualité, une fratrie de délinquants expulsés d'un HLM à Taverny dans le Val d'Oise. Il faisait vivre un véritable enfer aux habitants, connus notamment pour des vols en réunion avec violence, escroquerie, mais aussi pour l'usage, la détention et le transport de stupéfiants. Le préfet du Val d'Oise assure qu'ils sont partis et qu'ils ne seront pas relogés par les services sociaux. Écoutez.
Je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on reloge dans le parc social une famille comme celle-ci. Un parc social, logement social, c'est un logement qui est aidé à la construction et qui est également aidé à la location, vous savez, au travers des APL que le contribuable finance. On a 80 000 familles qui attendent des logements sociaux en Ile-de-France, donc ce logement sera rattribué à une famille paisible. Non, cette famille, elle va faire comme beaucoup de Français, elle va devoir chercher un logement par elle-même dans le parc privé.
Et puis il promettait un jeudi noir dans les transports. Finalement, le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens annonce la levée du préavis de grève prévu initialement demain et annonce qu'un accord a été trouvé à l'issue d'une conciliation de dernière minute. Voilà Sonia pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Place au débat à présent en compagnie de vos invités.
Effectivement, en compagnie de Maître Pierre Gentil que je salue. Merci d'être là et bonjour à vous. Philippe Bilger nous accompagne.
Bonjour,
merci.
Sonia.
Olivier Dartigol également présent. Bonjour à vous. Kevin Bossuet que je salue. Bonjour, Elisabeth Lévy également présente. Bonjour à vous. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Et je suis impatiente d'avoir vos avis, certainement opposé peut-être ou pas, sur la liberté d'expression. Quelles limites? Faut-il judiciariser le débat politique et même électoral? Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, c'est l'émotion qui prime à Grande-Synthe. C'est le jour des obsèques de Philippe qui auront lieu à partir de 14h30 tout à l'heure. Bien sûr, nous y sommes. Philippe qui a été lynché, battu à mort, très probablement dans le cadre d'une affaire de guet-apens. Pour ces obsèques, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui sont attendues, presque probablement autant que lors de la Marche Blanche, où il y avait, je vous le disais, beaucoup d'émotions et de colère. Également, évidemment, des proches, de l'entourage, de la famille. Nous sommes sur place avec notre journaliste Maxime Leguet. J'imagine, Maxime, que c'est ce que vous sentez, pressentez sur place, cette émotion qui monte à l'approche, maintenant, tout à l'heure, de l'horaire de ces obsèques.
Oui, bonjour Sonia. Effectivement, c'est une ville toujours sous le choc et en colère qui s'apprête à rendre hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime, vous le rappeliez, d'un guet-apens mortel, d'une agression, d'une violence inouïe qui l'avait plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Nous sommes sur le parking où Philippe a été retrouvé, laissé pour mort. Et c'est ici que, depuis une semaine, les habitants viennent déposer des fleurs de plus en plus nombreuses pour lui rendre hommage. Alors après la sidération et l'effroi, place désormais au recueillement. Les obsèques du jeune Philippe auront lieu à 14h30 à l'église Saint-Jacques, en cercle restreint. La famille, les proches et puis d'anciens camarades de lycée pourront participer à cette cérémonie. Mais on sait d'ores et déjà qu'ils sont nombreux, les habitants de Grande-Synthe, qui vont venir se réunir et se recueillir pour rendre hommage à Philippe. Eux qui étaient déjà près de 1500 vendredi dernier à avoir participé à cette marche blanche.
Merci à vous Maxime et nous serons évidemment avec vous tout à l'heure pour ces obsèques à partir de 14h30 et bien en amont lors de Midi News. Je voudrais vous faire écouter quelques réactions. On a tendu notre micro CNews avant le début de ces funérailles tout à l'heure. Écoutez.
C'était mon animateur et c'est un animateur qui était formidable. Il ne méritait pas ce qu'il a eu. C'est très très dur de perdre un enfant dans cette situation.
Non, je vais pas, c'est trop dur. Pour moi, c'est un enfant. Pour moi, c'est un enfant, donc c'est très dur. Je peux pas. Même l'émotion, elle est là. Donc je ne peux pas. Je suis trop triste pour les gens, la famille et tout ça. Je peux pas y aller.
Il fait partie de la ville. Il faut être solidaire avec tous les grands Saintois. Faut rendre hommage. Pour moi, c'est une obligation. Quand j'ai su ça, sur le coup, j'étais choqué parce que je me suis dit, ça peut arriver à n'importe qui.
C'est un enfant de Grande-Synthe et on les connaît, c'est des gens qui sont bien et on est obligé d'y aller quoi. Depuis des années, on enlève l'autorité parentale et puis les jeunes ils sont livrés à eux-mêmes. On ne commande pas nos enfants maintenant.
Et on rappelle que deux mineurs ont été placés en détention provisoire et un troisième mineur a été placé en garde à vue. Celui-là même qui a été agressé ces derniers jours, c'est le cousin de l'un des suspects. Et d'ailleurs, le préfet, pour vous raconter quand même le contexte dans cette commune, a demandé à la police nationale de renforcer la sécurité. Et je voudrais ajouter que pour les deux mis en cause et placés en détention provisoire, ce sont des profils connus de la police, mais plus que ça, qui étaient dans une situation de condamnation pour la justice des mineurs. Ils étaient dans cet entre-deux où ils attendaient en réalité leur peine pour d'autres méfaits. Voilà quand même le contexte avec, pour l'un des suspects, un père qui est en prison, pour l'autre, une mère qui, semble-t-il, est impliquée dans un trafic de drogue. Je trouve que Pierre Gentil, on ne rappelle pas aussi ce contexte-là, peut être important pour éclairer ce fait de société.
C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'avoir, alors avec des degrés de sauvagerie et de barbarie qui sont sans cesse franchis, on a l'impression de revoir systématiquement les mêmes profils et un petit peu, pardon de vous dire, les mêmes histoires, quoi, les mêmes faits. Et j'ai peur que tout ça ne soit qu'une éternelle boucle temporelle, que tout se répète. Regardez les politiciens, enfin les responsables politiques et au cas particulier ceux qui sont en responsabilité se sont défilés dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont venus, comme tout le monde, ils ont versé quelques larmes. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui change? Quelles sont les annonces? Quelle loi?
Un débat. Minorité, oui.
C'est bien un grand débat. Après le grand débat, on peut avoir une grande commission, puis après une grande commission, quelque chose de sérieux, quelque chose de concret. Parce qu'en attendant, l'histoire continue, les drames continuent, il n'y a rien qui change. Or, nous pouvons changer les choses. C'est le but de la politique.
C'est pas ça le sujet, là. Pardon, ce que vous. Enfin, non, c'est aussi le sujet, mais ce que je veux dire, la question que pose Sonia est autrement plus, à mon avis, douloureuse et compliquée. C'est-à-dire que un juge, n'importe quel juge, fût-il le plus sévère, va demander à éclairer la personnalité des gens. Vous comprenez bien, si vous voulez, qu'on a plus de risques de devenir cela que quand on a été élevé, comme probablement nous, par des parents aimants, etc., tout ce que vous voulez, que quand on avait un père en prison et une mère qui dealait de la drogue. Et je ne dis pas du tout ça pour répondre à la question en disant ça doit être une excuse, etc. Je dis que ça pose la question quand même vertigineuse de la responsabilité. Ils sont responsables. Attendez, Kevin, je ne suis pas en train de les excuser.
S'ils excuser. Sont coupables. Hein. Pour l'instant, ils sont innocents.
Oui, présumés innocents. Ils ne sont pas condamnés encore.
Ils sont suspects.
Ils sont suspects. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaye juste de vous dire, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'excusisme. Je ne le suis pas quand on dit que dans la justice, oui, le parcours des gens, si vous voulez, éclaire les choses et qu'on ne peut pas méconnaître cela. Je veux dire, c'est...
Mais on peut peut-être...
Je ne sais pas ce qu'en pense le magistrat.
Non, mais vous avez totalement raison, bien sûr.
Est-ce qu'on peut écouter justement, ça va vous éclairer votre argumentaire, le témoignage, alors exclusif à notre micro, de la mère de l'un des suspects. Je voudrais quand même, faites attention, on va peser les mots qui sont utilisés, c'est très très important ce qu'elle met en avant. Écoutez-la.
Je ne suis pas du tout responsable, parce que quand il était à la maison en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir... Je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre, t'es rentré si tard. Il me dit, non maman, je te jure, je la preuve, je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qui le prenne, il ne faut pas non plus se voiler la face qu'effectivement il doit être dedans. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Et je ne comprends pas ce qu'il a dit le Premier ministre là, pour le couvre-feu. Eh ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps, vous voyez. Nous, on leur dit de ne pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir, c'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit ?
14-15 ans connus pour des faits auparavant. Donc là, on a raté quelque chose dans l'éducation. Je crois que l'introspection aurait pu être plus en amont.
Par rapport à votre première question, on peut déjà revenir sur ce qui dysfonctionne, ce qu'on appelle la césure, le fait que la culpabilité, la réforme Belloubet, il me semble, que la culpabilité soit d'abord énoncée, puis qu'on renvoie sans que la sanction soit prononcée. Le fait qu'il y ait une audience unique et très rapide, c'est déjà une partie de la solution. Le débat est ouvert, nous verrons. Sur comparution immédiate, sur des très courtes peines de prison dans un cadre dans quelque chose de très encadré, mais pour que ce soit significatif. Et puis, ça, c'est la sanction. Et puis, il y a la dimension sociale. Mineur délinquant.
Comment on sauve les jeunes? Comment on protège tous les
J'étais
Philippe
très attentif par unité magistrat qui demande des états généraux de protection de l'enfance parce que
c'est la commission délinquant.
Mais l'État ne peut pas se substituer à tous les parents.
Je termine ma phrase. Ce n'est pas pour excuser. C'est pour réfléchir et penser la situation. Un mineur délinquant sur deux est aujourd'hui suivi par la protection de l'enfance. Dysfonctionne à tous les étages de la protection de l'enfance. Rien ne va.
Je sais que ce que je dis est choquant, mais moi, j'estime, mais je n'ai pas de solution, que quand on s'acharne à deux ou à trois, je ne sais pas, sur une personne à coup de batte de baseball, quelle qu'en soit la raison, je ne vois pas comment on est récupérable pour la suite. Quand on lui défigure le visage, il n'est même plus reconnaissable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour redonner une dose d'humanité, de civilité ou de civilisation chez ces personnes.
On peut aborder ce type de situation et de drame avec un pessimisme au moins relatif. Pour ma part, je ne suis pas loin de vous rejoindre, Sonia, mais si vous m'autorisez trois réflexions rapides, je rejoins absolument Olivier. On n'était pas nombreux à dire que la loi Belloubet sur les mineurs allait être une catastrophe. Cette césure est absurde, puisqu'au contraire, il faut avoir des décisions rapides en ce qui concerne les mineurs. Deuxième élément, et je le dis un peu avec ironie, quand on est dépassé par un problème, on crée aujourd'hui des états généraux. Ça va servir à peu près à rien. Et troisième élément, le fait que lorsqu'on entend cette mère, Sonia, je la trouve très lucide, d'une certaine manière.
La lucidité très tardive, mais, pardonnez-moi.
Oui, je la trouve très lucide, même si elle a échoué, à l'évidence, dans son éducation, mais elle montre bien ce qu'il y a d'impuissance de la part de certains parents.
Mais entre l'échec et la complicité, moi j'aimerais bien savoir où c'est ténu comme frontière.
Pardonnez-moi, Philippe, excusez-moi, on est souvent très très lucide, et vous le savez, justement, après la commission des faits, et quand on, enfin, je veux dire, quand on est dans une situation délicate comme la sienne.
Donc, très lucide,
non. Non, mais Philippe,
c'est surtout pas de la lucidité, des émotions contradictoires.
Kevin Bossuet. Elle montre bien ce qu'il y a d'impuissance dans l'éducation, parfois.
Écoutez, Philippe, moi, je vais mettre en avant mon expérience personnelle, parce que je reçois beaucoup de parents, avec d'enfants notamment, qui se comportent très mal en classe. Il y a aussi certains parents qui tiennent un discours de fermeté devant nous et qui ont des actes qui n'ont rien à voir avec le discours qu'ils ont tenu. Ils sont toujours dans la déresponsabilisation, ils sont toujours dans la culture de l'excuse, et leur petit choupinou, de toute manière, n'est jamais responsable. Et ça, ça doit cesser. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans notre société, il faut responsabiliser les acteurs, que ce soit les parents, avec des mesures qui soient fermes, comme toucher aux allocations sociales, quand, en effet, les parents n'honorent pas leurs devoirs. Il faut responsabiliser certains Joshi, qui doivent davantage protéger la société plutôt que trouver une culture de l'excuse face aux délinquants. Et il faut responsabiliser les hommes politiques aussi, parce que ça fait des années qu'il y a des discours et il n'y a aucune action derrière. C'est pénible.
On ne peut pas les responsabiliser, il y a les urnes pour ça. Donc voilà.
C'est vrai.
Mais là, vous avez raison, mais je repose ma question. Ils ont 14-15 ans. Oui. S'ils sont reconnus, imaginez, ce sont des futurs parents.
Mais bien
c'est
sûr.
Pour ça que je vous dis, il y a un moment, ces parents-là, dont le père est en prison et la mère...
C'est bien pour ça que je dis que c'est une question philosophique qui est quand même vertigineuse. Bien sûr qu'on est responsable pénalement, mais c'est quand même vertigineux parce que, effectivement, disons-le dans l'autre sens, moi, par exemple, j'ai eu plus de chance alors que beaucoup d'autres. Donc je serais. Souffrez que je poursuive.
J'écoute avec des
Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que on a un problème en fait insoluble. L'État n'est pas en mesure, n'est pas en capacité d'éduquer les enfants, tous les enfants que leurs parents ne peuvent pas éduquer.
Mais c'est même pas son rôle.
Mais c'est ça, c'est pas son rôle.
Mais ce n'est pas son rôle.
Substituer. Bah, l'aide sociale à l'enfance, quand on place des enfants, c'est bien qu'on se substitue aux parents, Sonia.
Mais attendez.
Donc tous les. Je change un mot. C'est pas, il y a des enfants qui visiblement sont délinquants, posent des difficultés, ça commence pas tout de suite, je suppose, c'est pas leur premier méfait, on l'a entendu. L'État n'est pas, l'aide sociale à l'enfance, toutes ces structures, la justice, la PJJ, tout ce que vous voulez, c'est fait pour ça. Sauf que la réalité, c'est que ça suppose que l'État soit en mesure, en fait, de pallier toutes ces situations, ce qu'il n'est pas.
Je vais poser la question différemment. Est-ce que si vous prenez ces individus, quels que soient les cas que l'on voit, peut-être pas celui-là, et vous le placez dans un autre pays, dans un autre pays. Oui, je ne dis pas un autre pays autoritaire, je dis un autre pays où on respecte l'autorité. Ça arrive, il y en a quand même. Est-ce qu'ils auraient commis... Je ne suis pas sûre. Je pense que ça relève quand même d'un état d'esprit plus profond.
Parce que la question que vous posez, elle est fondamentale. Moi, je crois qu'il faut accepter, et on a du mal quand on est un humain, à accepter l'idée qu'il y a une très faible minorité de personnalités à l'égard desquels on ne peut rien faire sur le plan de la réindomption.
En France, ils s'autorisent.
Mais l'absence d'empathie, l'absence d'empathie, ça dépend pas en réalité des lois.
Je sais bien, mais je pense qu'il y a une couche supplémentaire.
Il y a des psychopathes, tout simplement, pour le dire.
Il y a d'autres facteurs.
Ça pose la question des internats et des centres éducatifs, parce que comme l'État est incapable de dynamiter cet environnement. Cet environnement anxiogène qui débouche notamment sur de la délinquance, il faut prendre les adolescents qui posent problème, les retirer de cet environnement pour les rééduquer dans des centres éducatifs.
Mais évidemment, et vous les mettez avec d'autres qui ont moins de problèmes, comme ça tout le monde aura plein de problèmes et on est tranquille. C'est comme le principe de la prison.
J'ai une question à vous poser pour rebondir à ce que disait Elisabeth Lévy.
Olivier, juste après les titres
de
Mickaël.
C'est très bien, ça me permettra de réfléchir encore plus.
Bruno Le Maire a présenté une série de mesures pour simplifier la vie des entreprises. Fiche de paye simplifiée, réduction des délais. Le ministre de l'économie souhaite, je cite, débarrasser les patrons de la paperasse, dit-il. Il promettait un jeudi noir dans les aéroports. Finalement, le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens annonce la levée du préavis de grève prévu initialement demain et annonce qu'un accord a été trouvé à l'issue d'une conciliation de dernière minute. Et puis un plan de 95 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, mais aussi d'Israël et de Taïwan. Après la Chambre des représentants, le Sénat américain a adopté à son tour cette nuit une enveloppe très importante et très attendue.
Merci Mickaël, on va vérifier parce que malheureusement le trafic reste extrêmement perturbé encore demain avec beaucoup d'annulations. Donc on va voir ça dans les détails. Merci à vous et à tout à l'heure.
Ma question est assez simple. Si je prends un profil qui peut exister d'un jeune qui n'a vécu que dans un milieu violent, de violence intrafamiliale par exemple, et qui va d'une première violence à une ultra-violence, et avec une famille qui ne peut absolument pas répondre, ça peut exister, à cette situation-là. Si ce n'est pas l'État qui s'en occupe, qui peut s'en occuper ?
Personne.
Premièrement.
Oui, bien sûr.
Et deuxièmement, Béatrice Brugère, dont j'écoute beaucoup les interventions aujourd'hui, dit que nous sommes incapables de casser les processus de ces mineurs délinquants, que nous n'y arrivons pas.
D'accord, donc c'est notre faute.
Non, la société, en tout cas, dans son ensemble.
Bon, bah écoutez,
non, ce que je veux dire, c'est que, à quoi, est-ce que nous sommes... La discussion qui va... discussion qui va avoir lieu, si ce n'est l'amélioration de nos politiques publiques, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre ?
Là où je pense que vous avez raison sur une responsabilité, quand on a montré hier la séquence de la conversation, du dialogue entre certains jeunes, comme on dit maintenant, à la dérive, puisqu'il l'appelle ainsi, avec le Premier ministre, mais ça commence par là.
Oui.
Pardon, ça peut paraître simple, vous tutoyez, vous avez l'impression que quand ils vous disent qu'ils n'en ont rien à faire d'être là, que tout le monde rigole, la ministre à côté est morte de rire.
Mais, Sonia, en tous les cas,
vous ne vous choque pas.
Si, bien sûr, mais j'allais dire, je voulais répondre d'abord, excusez-moi, je pensais en même temps que je vous écoutais à ce qu'il disait. De toute façon, de toute façon, arrête de rire.
Allez-y, le sujet est assez grave, je vous assure.
Mon idée est en train de partir.
Alors, laissez la parole à d'autres, le temps de la retrouver. Attendez, j'ai posé précisément la question. En réalité, est-ce que c'est encore du ressort du politique et de l'État ? Quelle que soit, franchement, la couleur politique, c'est ça la question.
Oui.
Est-ce que c'est pas des promesses ? Et quel que soit le parti, qui peut aujourd'hui dire que ça n'arrivera plus ?
Mais personne ne peut, par définition, personne ne peut le dire. Et même tout le monde, enfin... Je pense que je me risque pas à dire que malheureusement, et je le regrette, mais tout ça va continuer parce que rien ne change. Et c'est pour ça qu'on a ce débat et qu'il faudrait que ce débat arrive à l'Assemblée nationale, qu'il faudrait qu'il y ait des lois là-dessus. Et effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce type de profil ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce type de profil ? Eh bien, ce type de profil, là, je vais vous rejoindre de manière assez surprenante pour le coup, c'est que là, il faut des politiques publiques qui soient à la hauteur. Et ces politiques publiques, là, il faut les penser sous un autre angle. C'est un angle d'isolement et de rééducation, avec des centres où on sépare ce type de profil des autres jeunes. Si vous ne faites pas ça, je pense que vous serez d'accord,
mécaniquement,
vous allez avoir une contagion et une reproduction de ce type de comportement. Peu importe le terme militaire ou pas, des établissements disciplinaires et en internat.
Je suis d'accord avec Maître Gentillet parce que concrètement, comment ça se passe ? Vous avez une classe de 25 élèves. Vous en avez deux qui posent problème. Vous gérez pendant 20 minutes ces deux élèves. Et à la fin, il y a une contagion. Plus personne ne respecte les règles et la classe en devient totalement ingérable.
Et
c'est pour ça qu'isoler en effet ces individus-là pour épargner les autres, ça peut être en effet une bonne mesure. Et je pense que c'est la seule que nous avons en notre possession, parce que Sonia, vous avez raison, on a tellement laissé aller les choses que maintenant, on ne peut plus faire autrement qu'une fermeté qui, certes, effraie une partie du spectre politique, mais qui est utile.
Je me demande tout de même si vous n'exagérez pas le rôle positif de l'État lorsqu'il se substitue aux défaillances d'avant. Pardon d'être horriblement pessimiste, mais je continue sur mon idée qu'il y a des minorités à l'égard desquelles rien ne sera jamais possible. Les inégalités sociales de l'origine et les défaillances éducatives parfois ne se rattrapent jamais.
D'accord Philippe, mais si on peut épargner les autres,
pour le reste,
c'est pas plus mal.
Vos idées sont très justes, il faut les éloigner, mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte d'optimisme béat qui substituerait un totalitarisme à la défaillance des origines.
Vous les éloignez après ce qui s'est passé. Donc
c'est pas la panacée non plus.
Oui, encore heureux, pardonnez-moi, parce que si en plus ils sont laissés en liberté...
Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut... protéger la société. La question que vous posez, qu'est-ce qu'on peut
comment la reconstruire
faire,
comment la protéger ne suffit plus aujourd'hui.
Oui. Pourquoi vous dites comment la reconstruire? Non, mais ce qui est sûr, c'est que justement, est-ce je voulais vous répondre
vivre
à votre
avec
question.
Des individus
par exemple, aujourd'hui, qu'apprend-on aux enfants, mais pas qu'aux enfants, à tous les groupes, à tout, que le plus important dans l'existence, ce que tout le monde leur doit. On leur parle du respect qu'on leur doit. Bien sûr que tout le monde mérite plus ou moins d'ailleurs le respect. Mais si vous voulez, le respect qu'ils doivent éventuellement aux autres, si vous voulez, passe au second plan. Déjà, il y a tout un discours, et c'est un discours occidental. En réalité, si vous voulez, je ne crois pas. C'est pas juste en faisant des lois, etc., qu'on va changer ça, parce que ça va mettre très longtemps à ce qu'il y ait une sorte de
ça, c'est le nihilisme, l'individualisme.
Et puis l'espèce de fausse bienveillance qui consiste à penser qu'oh là là, mes petits, on va pas bout.
Allez, pardon. On marque une pause. Vous avez entièrement raison. Ça rejoint aussi ce débat. On y sera tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de monde qui se dirige vers l'église. L'église de Grande-Synthe. Et dans quelques instants, nous parlerons de la liberté d'expression. Alors, vous l'avez, je l'espère, sur ce plateau.
Ça va.
Oui, ça va. Ça dépend où ça va.
On devrait même avoir une immunité.
Gagnez-vous, c'est le moment.
On devrait avoir une immunité pour tout ce qui est dit sur ce plateau.
Non.
On va pas être d'accord.
J'essaye de veiller. Non, mais là, ça va être très intéressant.
Bah, évidemment.
Parce que c'est majeur.
Évidemment.
À tout de suite. Merci. Merci d'être avec nous, la suite du débat, et nous allons parler de deux cas très différents, voire même opposés, et c'est la question majeure de la liberté d'expression et donc de l'expression démocratique après vos titres, cher Michael.
L'inquiétude des salariés du groupe Casino, plus de 3000 postes sont menacés au sein de l'entreprise. Le projet de réorganisation prévoit 1293 suppressions d'emplois, dont 554 rien qu'à Saint-Étienne. Qu'est-il arrivé à Kenji Girac? L'enquête se poursuit. Les premières expertises révèlent que la balle qu'il a touchée aurait été tirée dans sa caravane. Et pour le moment, l'hypothèse du tir accidentel reste privilégiée. Et puis ces images spectaculaires en Grèce, un nuage de sable du Sahara a envahi le ciel d'Athènes, du jamais vu depuis 2018, expliquent les météorologues. Le phénomène devrait commencer à s'estomper dans le courant de la journée.
Merci à vous, cher Michael, et à tout à l'heure. Alors, je vous le disais, on va parler de deux cas très différents, voire opposés, mais qui interrogent tous deux sur la liberté d'expression, ou plutôt sur la judiciarisation du débat politique. D'un côté, Mathilde Panot, LFI, convoquée par la justice dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. De l'autre, Fabrice Leggeri, RN, en troisième position, je vous rappelle, sur la liste de Jordan Bardella, ancien patron de Frontex, qui fait l'objet d'une plainte de l'association Utopia 56 et de la LDH pour crimes contre l'humanité. Alors, pour ces deux ONG, eh bien, sous la direction de Fabrice Leggeri, la Méditerranée serait devenue, donc, et à cause de Fabrice Leggeri, eh bien, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Voilà pourquoi il porte plainte quand même, hein, pour crimes contre l'humanité. Écoutons-le. Il était chez Pascal Pro sur CNews ce matin.
Je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. C'est-à-dire que, comme directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, j'ai pris au sérieux le mandat qui est celui de protéger les frontières de l'Union européenne contre notamment la submersion migratoire ou, en tout cas, les trafics d'êtres humains qui envoient des centaines de milliers de personnes sur notre territoire et qui envoie également chaque année des dizaines de milliers de personnes à la mort.
Alors il y a quand même une différence. Fabrice Leggeri, ce sont pour ses actes, si je puis dire, en tous les cas la mission qui lui a été quand même confiée par Frontex, alors que Mathilde Panot, ses propos et le communiqué de la France insoumise. Malgré tout, ça interroge. Par exemple, pour Fabrice Leggeri, ça vous choque, Pierre Gentillet?
Qu'est-ce qui me choque? La plainte?
La plainte.
Elle me surprend pas, donc mécaniquement, elle me choque pas. Je la trouve absolument ridicule. Parce
le fondement, alors?
Il n'y a aucun fondement, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, si on parle de droit deux secondes, il n'y a absolument aucune chance pour que l'ancien directeur de Frontex, dès lors qu'il a agi dans le cadre de la mission qui était la sienne, je vous rappelle quand même que la mission de Frontex, on l'oublie un petit peu, c'est censé être le contrôle et la gestion des frontières, d'accord ? Et en particulier vis-à-vis de gens qui violent nos lois, qui violent nos frontières. Donc, Monsieur Leggeri, a priori, c'est à peu près certain, a fait son travail. Donc ici, cette plainte, elle n'a pas un objectif juridique, mais politique, et personne n'en est dupe en plein contexte d'élections européennes. Voilà. Donc,
enfin,
moi,
quelqu'un
ça
y croit,
ça me surprend pas, mais il n'y a aucun fondement.
quelqu'un.
Il y a une plainte.
Pourquoi ne pas attaquer le ministère de l'Intérieur qui refuse des visas alors
Peut-être vous allez leur donner des idées.
Vous voulez nommer.
Mais bien sûr.
À un point de délire. La question, c'est qu'on ne sait pas encore si cette plainte va être recevable. Dans le cas de Mathilde Panot, il y a une enquête qui a commencé, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera poursuivie. Si vous voulez, c'est évidemment, vous avez raison, ce ne sont pas tout à fait les mêmes cas. Moi, personnellement, je pense qu'il faut aller le plus loin possible dans la liberté. Et je laisserai Philippe, je sais qu'il va parler des lois mémorielles qui me semblent...
Attendez, le plus loin possible dans la liberté d'expression, mais quelle limite, par exemple,
pour moi ? La limite, pour moi, c'est les appels aux actes. C'est là que, si vous voulez, on doit pouvoir dire toutes sortes d'âneries, de trucs horribles. Je demande à mes concitoyens musulmans d'accepter une chose qu'ils trouvent horrible, des caricatures de leurs prophètes. Je veux dire, je leur demande vraiment. Moi, si vous voulez, les idées de Mathilde Panot et des autres, je les trouve abjectes. Mais d'abord, une apologie dans une abstention, dans ce qu'on n'a pas dit. Mais je ne veux même pas me placer comme juge. Pour moi, ça ne se règle pas au tribunal. Et je dis très vite, en dehors des principes qui me sont chers, très chers de la liberté, supposons que Mathilde Panot ne soit pas poursuivie et encore moins condamnée. Supposons-le. Une chef de groupe à la... Je veux dire, ça voudra dire quoi ? Que ces gens de la France insoumise pour lesquels je voudrais éviter un qualificatif qui dépasserait ma pensée, que ces gens de la France insoumise qui ont des idées vraiment dégoûtantes vont pouvoir se balader partout avec un brevet d'honorabilité.
Ou alors, ou de victimisation, là, qui est...
Non, mais si elle n'est pas poursuivie.
J'entends. Alors, pour l'instant, mettons-nous dans le cadre quand même du début d'une enquête. Est-ce que, véritablement, moi, je me pose la question, quelles que soient les idées, ce qui a été dit dans ce communiqué qui, je le rappelle, a été pondu le 7 octobre. Il n'y a même pas de délai, je n'ose même pas employer le mot de délai d'essence, de toute façon, il n'y en a pas. Et malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une intrusion ici dans le débat politique, électoral et une judiciarisation qui pourrait tous nous interroger ?
Vous parlez de...
Mathilde Panot.
Mathilde Panot. Oui. Alors, d'abord, en général, je déteste en France que... la judiciarisation de la pensée, en général, se substitue à l'affrontement démocratique et médiatique. Premier point. Deuxième point, la situation de Mathilde Panot, vous l'avez dit, Pierre Gentillet, est radicalement différente de celle de Fabrice Leggeri. On a une absurdité totale, tandis que Mathilde Panot, eh bien, si on veut bien examiner à fond ce qui lui est reproché, elle résulte d'une confusion entre la réprobation morale qu'on peut avoir pour ses propos et d'une certaine manière le désaccord intellectuel, mais qui n'ont pas, de mon point de vue, une qualification pénale admissible. Parce que si on considère que ce qu'elle a dit est une apologie, on bat en brèche véritablement tout extrémisme justifiable de la pensée politique.
Tout à fait.
Ça me paraît très dangereux.
Réaction, Kevin Bossuet, la vôtre, et regardez celle ce matin de Bruno Retailleau chez les Républicains. Voici ce qu'il dit, le président du groupe LR au Sénat. Les élus LFI sont les premiers à condamner les uns ou les autres. Retour à l'envoyeur arroseur arrosé.
Certes, une fois qu'on a passé ça, maintenant,
moi, je pense
dans le débat.
Raison. Alors, moi, je suis pour la liberté d'expression. Simplement, je trouve qu'il y a aujourd'hui une pauvreté quand même du débat public dans la mesure où j'aimerais bien que des historiens débattent avec certains élus de la France insoumise pour qu'on comprenne, pour que ces historiens leur expliquent en quoi ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide et en quoi on n'est pas dans une situation d'apartheid.
Mais ça, c'est pas possible.
Ben oui, c'est,
mais ils ne vont pas être
malheureux.
Convaincus par... Non. Oui,
ben oui, mais c'est malheureux. Mais au moins pour éclairer le débat public, parce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement que ce qui est en train de se passer à Gaza est un génocide. Ce n'est pas un génocide. Oui, évidemment, c'est affreux. Moi, quand je vois des images, j'ai le cœur en sang parce qu'en effet,
Kevin,
les Gazaouis en effet, subissent un massacre.
Pardonnez-moi, appelez les mêmes historiens à aller parler à certains responsables de l'ONU.
Le mot génocide
a été employé à l'ONU.
Je suis d'accord
avec
vous.
Alors en quoi vous allez venir ici faire le redresseur de tort de responsables politiques qui reprennent des mots employés par l'ONU ?
Ah non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Bah oui, et c'est pour ça qu'il faut un débat public éclairé et que des historiens expliquent concrètement ce que c'est qu'un génocide et en quoi ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide, même si s'y passe. Et en effet, affreux. Et autre chose, dernière chose,
je suis pour la judiciarisation
à partir du moment où il y a mise en danger de la vie d'autrui. Et moi, je suis désolé. Quand vous avez des élus de la France insoumise qui nous racontent qu'il y a un génocide, qui vise en effet le peuple israélien en disant que finalement, ce sont les juifs juifs qui sont responsables de ça, ça débouche sur une montée de l'antisémitisme. Non, mais... Et là, c'est grave et condamnable.
Mais ce qui pose problème, c'est que ce délit d'apologie du terrorisme, qui est issu donc de la loi Cazeneuve de 2014, et déjà des magistrats et des avocats avaient alerté sur l'interprétation de cette nouvelle loi. Le fait qu'on puisse qualifier dans le tract, dans l'expression publique du groupe Insoumis le 7 octobre, la phrase « offensive armée des forces palestiniennes », qui n'aurait jamais été une phrase, moi, que j'aurais pu écrire, étant donné que c'est un pogrom venant d'un groupe terroriste. Mais qu'on puisse qualifier ce segment de phrase comme une apologie du terrorisme, voilà, là, il y a un véritable sujet qui peut nous faire basculer dans un monde que moi, je ne veux pas. Parce que je pense que c'est aux électeurs de trancher.
Bien sûr.
Non, mais c'est... Je poursuis le propos. C'est ça qui est absolument délirant. Tous les mots ont leur importance. Ce n'est pas une apologie. Encore une fois, c'est ça le terme qui est retenu par le droit pénal. Dans ce communiqué, il est dit une ânerie. D'accord ? Cette ânerie, ânerie gravissime, ne constitue pas un fait pénal. Le fait de dire que le Hamas est un mouvement de résistance, encore une fois, je vous rappelle que ces gens-là écrivent, la France Insoumise écrit ça le 7 octobre. Mais pour autant, je trouve que c'est
dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie, c'est écrit le 7 octobre.
Est-ce que cela constitue... C'est faux.
Je suis d'accord.
C'est pas à nous, mais est-ce qu'on peut dire que ça, enfin, je suis d'accord, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est à un juge de le dire. D'accord ? Je vous rappelle accessoirement qu'il y a une immunité, article 26 de la Constitution, pour les parlementaires, je dis ça au passage. Mais si on va quand même dans le fond du débat, ça ne peut pas, je donne mon avis, je trouve que c'est excessif de dire qu'il y a là une apologie du terrorisme. À ce moment-là, attention, parce que là, on ne va plus pouvoir dire grand-chose.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, votre argument, parce que en réalité, ce que vous dites, c'est que finalement, s'il y avait ce délit était constitué, ça veut bien dire qu'il faut qu'un juge se prononce. C'est pas vous qui allez décider si le délit est constitué ou pas, même si je suis d'accord avec vous. Donc vous êtes d'accord, dans le fond. Vous dites simplement, dans ce cas, il n'y a pas. Mais vous êtes d'accord pour le reste. Moi, je pense, la réalité, c'est que moi, je pense que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on accepte, dans le fond, même l'apologie du Hamas, quelqu'un qui nous dirait « moi, je suis pour le Hamas dans l'espace public ». C'est une question plus compliquée.
C'est le sujet, là.
Si, c'est aussi le sujet.
Non, ce n'est pas le sujet.
Pardon, excusez-moi, Pierre, on n'est pas d'accord, mais...
Et pourquoi alors ? Expliquez-nous.
La question, c'est de savoir si ce débat doit être tranché devant les tribunaux. S'il ne doit pas l'être, ça veut dire qu'à aucun moment, il ne doit l'être. Soit vous vous placez dans la position d'un juge qui prend position... Parce que à ce moment, et vous admettez la plainte.
Mais Elisabeth, il y a quelque chose, pardonnez-moi, moi j'ai une crainte par rapport, vraiment une crainte importante. C'est-à-dire, imaginez si on va vers cette judiciarisation. Certains, et d'ailleurs ceux qui sont sensibles au discours LFI, que vont-ils croire ? Ou certains qui pourraient être sensibles, qu'on ne peut pas dire sur le sujet de la Palestine-Gaza ce qu'on veut en France.
Mais je vais dans votre sens.
Et donc ça va nourrir encore plus. Oui. Et ça peut être vraiment dégoupillé, électoral, politique.
Mais je suis totalement d'accord. Il faut accepter.
La justice ne pense pas à ça.
Je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'à mon avis, et je sais, il faudrait changer ces lois où tout le monde peut aller en permanence.
Et la question que je me pose,
Elisabeth. Il faut défendre tout le monde. Oui. Il faut aussi défendre Zemmour.
Ben dites-le.
La question que je me pose, Elisabeth, c'est outre le fait que je pense que c'est totalement contre-productif politiquement, et que les insoumis, en se drapant dans le victimaire et dans la volonté d'aller chercher un électorat qu'on devine, peuvent faire une bonne opération sur cette séquence-là, mais à vérifier. La question que je me pose, mais elle est compliquée, hein, je n'ai pas une réponse simple à, une réponse simple à ça. C'est est-il possible de condamner très clairement, très fortement, la position des insoumis depuis le 7 octobre ? Qui est pour moi quelque chose politiquement, moralement inacceptable, condamnable, en restant dans le domaine politique, tranché par l'électorat, sans aller vers une judiciarisation.
Personne
n'est pour la judiciarisation.
C'est ça la force du débat politique.
C'est le débat qu'il y a autour des lois mémorielles et notamment de la loi Guesso. Peut-on accepter que dans notre pays, il y ait des gens qui falsifient l'histoire, qui racontent que finalement la Shoah n'a pas existé ou dans de moindres proportions, avec la possibilité, comme vous l'avez dit, Sonia, que les gens pense en effet qu'on cache la
vérité,
qu'on empêche de parler les gens et que ça renforce les gens dans leur idée négationniste. C'est tout le débat.
Vous avez parlé des historiens. D'abord, ils ne pourront se pencher sur ça qu'après de nombreuses années. Vous pouvez pas.
C'est pour ça que je prenais la loi Guesso. Là, c'est trop brûlant.
Moi, je suis désolée. La loi Guesso a été faite, comme d'habitude, avec d'excellentes intentions. Il fallait s'attaquer au négationnisme et pour combattre l'antisémitisme qui se drapait derrière. Parce que si on dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, ça veut dire que les Juifs ont réussi à monter un gros mytho à l'humanité entière et qu'ils sont donc extrêmement puissants et fourbes, pour aller vite. Donc, c'était une très bonne idée, la question. Moi, je pense que quand une vérité historique doit être défendue par la loi... c'est qu'on a déjà perdu.
C'est vrai.
Et en plus, une vérité comme celle-là, aussi étayée, aussi consensuelle parmi dans la communauté scientifique...
avez raison, j'ajoute, alors que quand on va vers une judiciarisation, on a encore perdu.
Oui, mais c'est la même chose, bien sûr. Donc, est-ce que la question qu'il faut se poser maintenant politiquement, est-ce que la loi Guesso a fait reculer l'antisémitisme ?
Non.
Non. Est-ce que qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a encouragé. Chacun a voulu sa loi Guesso. Toute communauté maintenant veut avoir une loi qui protège sa vision de l'histoire. Et tout est mis sur le même plan que la Shoah. Je veux dire, tout n'a pas la même...
Elisabeth, ça a permis de faire condamner des gens comme Vincent Renoir, qui ne peuvent plus faire leur propagande sur Internet, parce que ça crée vraiment de l'antisémitisme, et ça crée, en effet, du négationnisme. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Quand on amène ça dans le terrain judiciaire, on a déjà perdu, et c'est malheureux.
Philippe Bilger, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, je voulais dire qu'il y a deux manières de donner du lustre au mensonge historique odieux. C'est ou bien de l'interdire officieusement, ou bien de faire une loi pour l'interdire.
Exactement.
Parce qu'une loi a ce paradoxe pervers de donner envie de la transgression. Et il est évident que ces gens qui, odieusement, nient une évidence historique... ont à la fois un délire intellectuel, mais jouissent de l'attitude du martyr.
Mais leur victimisation peut porter vraiment préjudice à tout ce qui va se passer en France dans les prochains mois et prochaines années. Les titres avec vous, cher Michael.
Une fratrie de délinquants expulsés d'un HLM de Taverny dans le Val d'Oise. Il faisait vivre un véritable enfer aux habitants, connus notamment pour des vols en réunion avec violence, escroquerie, mais aussi pour l'usage, la détention et les transports de stupéfiants. La maire PS d'Avignon, Cécile L, tire la sonnette d'alarme et réclame des renforts de police face à une menace permanente sur les habitants qui ont peur, dit-elle, pour leur vie et celle de leurs enfants. Elle dénonce un regain de violence insupportable lié au trafic de drogue. Et puis les obsèques de Philippe auront lieu à 14h30 à Grande-Synthe. Des centaines de personnes sont attendues alors que l'enquête se poursuit. Deux mineurs ont été mis en examen et placés en détention pour assassinat.
Bien, et maintenant nous allons parler, nous y serons évidemment en Grande-Synthe tout à l'heure, je vous remercie Mickaël, nous allons parler d'un sujet, parce qu'il faut, je prépare des sujets aussi en fonction des invités, et en fonction de notre cher Olivier, qui va pouvoir mettre sa casquette de cheminot,
merci,
ou d'aiguilleur du ciel.
Je le savais. N'est-ce
pas ? Ah bah oui, non, là c'est
vraiment le chouchou, lui, il a ses sujets en plus.
Oui. Oui. Attends, mais peut-être qu'il va vous rejoindre, parce que...
En train ?
Ça va être compliqué.
Vous savez
que
ma position ici est de défendre les syndicalistes. Vous le savez.
Ah, on a compris.
Vous le savez.
Ça ne nous a pas échappé.
On voit bien le couteau que tu as entre les dents, d'ailleurs.
Et donc, je vais vous expliquer.
Et la faucille derrière aussi. Bon. Pour les Jeux Olympiques, le gouvernement est-il prêt à tout ? Alors, en ce qui concerne les pré-retraites à la SNCF, c'est le président de la SNCF, soyons objectifs, qui a tout négocié. Mais le gouvernement, qui a adoubé.
Ah oui, il ne prend pas cette initiative.
D'accord, donc capitulation.
Ah oui, quand même.
Mais non, c'est pas de moi.
Oui,
c'est Bruno Retailleau qui l'a dit. On va le voir. Non, non.
Alors, c'est évidemment très objectif.
Non, je dis pas ça. Je dis, regardez ce qu'a dit notre invité du matin. La pré-retraite à la SNCF, c'est une capitulation de l'État. Notre syndicaliste en chef va réagir. J'ajoute que les aiguilleurs du ciel. Alors, il est vrai que le syndicat majoritaire est en train de négocier. Ça se passe bien. Moi, je demande à quel prix. C'est surtout ça, ce qui m'importe, et qu'il y aura quelques perturbations demain, voilà, et qu'il y ait un préavis de grève qui est levé. Mais quelques perturbations, attention, pour les avions. Quel scandale. Pour faire les choses avec nuance.
Oui, alors je crois vraiment que la réforme des retraites n'était pas une bonne réforme, et d'ailleurs le pays quasiment tout entier, en tout cas dans une part très importante, n'en voulait pas. Sondage après sondage, pour différentes raisons. La question, c'était plutôt le travail que la
retraite. J'ai une information. 75% des vols restent annulés à Orly et 55% à Roissy. Oui. Donc,
là, j'étais sur le rail.
Non, allez-y.
Et donc, sur proposition de la direction de la SNCF, non pas sur une conflictualité interne que la direction n'aurait pas pu accepter, sur proposition de la direction. Et donc, avec le feu vert à Matignon, à minima, si ce n'est à l'Élysée, il a été proposé que sur les 18 derniers mois, restez assis, vous allez supporter tout ça, c'est pas très, très dur à entendre.
Ça dépend,
que
moi,
sur les...
ça sort dans notre
attendez,
poche.
Que sur les 18 derniers mois, que sur les 18 derniers mois donc d'une carrière, le salarié, le cheminot, puisse se mettre en pré-retraite et toucher 75% de mémoire de son traitement salarial.
Rien fait,
ce qui
rien
fait,
faire,
cher Kevin, voilà, qu'ils reviennent sur les effets d'une loi qui était contestable.
Pardonnez-moi.
Et je souhaite que
mais
d'autres
ils sont revenus pas... pour nous tous.
Et je souhaite que des pans entiers de la société, du monde du travail, puissent aller dans cette direction-là et qu'on puisse revenir sur une régression.
On se croirait, c'est le retour de la société d'ordre d'ancien régime où il y en a qui ont des privilèges et d'autres qui n'en ont pas.
C'est
et
plutôt
que
36,
vous,
c'est les salopards
Olivier,
à casquette.
Vous défendez ça. Je m'interroge quand même. La vérité, c'est qu'il y a une réforme des retraites. Elle a été validée. Elle doit s'appliquer à
comment elle a été validée?
Non, mais elle
par
doit
un référendum elle, par un vote à l'Assemblée
elle doit s'appliquer à tous, Olivier. Quand
ah non,
vous
elle,
avez
a pas été, elle a été validée.
Une partie
mais...
des travailleurs, notamment de la SNCF, pour lesquels ce n'est pas respecté, ce n'est pas normal.
Je
ça
vais
va
vous mettre d'accord.
22 milliards
je vais vous mettre d'accord. J'aime pas beaucoup faire ça, mais enfin, c'est public. Les salaires. Là, je parle des aiguilleurs. Enfin, non, allons dans le.
Oui.
Quoi, oui.
On prend les airs.
On prend les airs, mais je ne sais pas si on prend
sur
de la hauteur.
Oui, oui.
Ah ben, bon, alors, on ne peut pas lui répondre sur le train.
Alors, moi, voilà, je ne sais pas. Sérieux. Je montre, voilà, et je ne veux pas colorier ma question. Voilà.
Ah ben, c'est bien. Voilà.
Oui.
Très bien.
Je crois qu'il n'y a plus rien à dire.
Voilà, il n'y a plus rien à dire.
Ben, on va marquer la pause, voilà. Alors. On en reparlera quand même en retour.
Moi, on valorise la fidélité de l'entreprise.
Ben, on n'a pas mis le sujet de M. Tavares.
Mais moi, j'ai été presque convaincu par ce qu'a dit Olivier.
Non, mais vous êtes un syndicaliste qui... Mais oui, voilà. Donc, parle, surtout.
Il dit des choses très pertinentes.
Une pause. Elle doit être adoptée, les syndicats ont le droit de s'asseoir.
Vous avez comme elle a été adoptée.
Mais elle a été adoptée de manière scandaleuse, cette loi.
Là, nous sommes d'accord. Non, sur une telle loi, il ne fallait pas éviter le vote du Parlement.
Oui, mais c'est une remise en cause de la démocratie.
Le droit a été fait pour que des lois puissent être adoptées quand il y a une majorité.
Ah, mais c'est vrai que tu soutenais un bloc la réforme.
J'aime bien quand vous soutenez, vous respectez les lois. J'aime bien quand vous respectez aussi l'ordre et les temps de cette émission et les horaires.
Nous sommes la SNC.
Mais oui.
La pause.
Oui, oui. Une fois
une pause. Midi News, la suite, merci d'être avec nous. Beaucoup d'émotions et de colère aussi, de colère froide, dans tous les cas à Grande-Synthe. Nous sommes à une demi-heure du début des funérailles de Philippe, 22 ans, qui a été lynché à mort, très probablement dans le cadre d'une affaire de guet-apens. Nous y sommes, évidemment, avec nos équipes. Nous parlerons également de cette fratrie, connue pour de graves faits de délinquance, expulsée de son HLM dans le Val-d'Oise, soulagement des habitants qui aspirent à la tranquillité et à la sécurité, et preuve que quand on veut, on peut. Donc c'est possible aussi, il n'y a pas d'impuissance, on en parlera après le journal qui vous est présenté par Mickaël. Rebonjour à vous.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un professeur a été agressé et menacé de mort par un élève à Toulouse. L'enseignant venait de reprendre le jeune homme car il perturbait le cours. Lui et le chef d'établissement ont déposé plainte. L'adolescent a été placé en garde à vue. Écoutez, le recteur de l'Académie de Toulouse qui salue notamment la réaction des autres élèves.
L'élève s'est levé, l'a pris par le col de sa chemise, l'a plaqué contre le mur et lui a asséné 4 gifles plus exactement. Là, je voudrais vraiment saluer la réaction des 30 autres élèves de la classe qui ont vraiment compris qu'il y avait un geste démesuré, grave, qui s'est produit. D'abord, ils sont intervenus, ils ont pris leurs camarades qu'ils ont sortis de la salle et à ce moment-là, effectivement, manifestement, l'élève a proféré des menaces en disant... des menaces de mort. Je vais te fumer, toi, tu verras.
La violence dans les écoles qui n'inquiète pas seulement le corps enseignant. Les élèves aussi sont de plus en plus angoissés à l'idée d'aller en cours. C'est ce qu'expliquait ce matin chez nos confrères d'RTL, la magistrate Béatrice Brugère. Écoutez.
Dans l'enceinte scolaire, dans ce rapport, il y a un chiffre qui est très intéressant dont personne ne parle. C'est que pour les élèves de CM1, CM2, donc CM1, CM2, on est sur...
9-10 ans.
Merci. Vous avez quasiment 23% des élèves qui viennent à l'école avec la boule au ventre parce qu'ils ont déclaré qu'ils ont très peur de la violence au sein de l'enceinte scolaire.
Un enfant sur quatre de 9-10 ans a peur d'aller à l'école.
Vous voyez, le rapport, il date de septembre 2022, donc il est déjà un petit peu ancien. On parle de 23%, donc c'est pratiquement un élève sur quatre.
Les obsèques de Philippe auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Grande-Synthe. Des centaines de personnes sont attendues alors que l'enquête se poursuit. Grande-Synthe, où une semaine après le drame, l'émotion reste vive. Écoutez.
C'était mon animateur. Et c'est un animateur qui était formidable. Il ne méritait pas ce qu'il a eu.
Non, je ne vais pas, c'est trop dur. Pour moi, c'est un enfant. Pour moi, c'est un enfant, donc c'est très dur. Je ne peux pas. Même l'émotion, elle est là. Donc je ne peux pas. Je suis trop triste. Pour les gens, la famille et tout ça, je ne peux pas y aller.
Il fait partie de la ville. Il faut être solidaire avec tous les grands Saintois. Il faut rendre hommage. Pour moi, c'est une obligation. Quand j'ai su ça, sur le coup, j'étais choqué. Parce que je me suis dit, ça peut arriver à n'importe qui.
C'est un enfant de Grande-Synthe et on les connaît, c'est des gens qui sont bien et on est obligé d'y aller, quoi.
Et puis, mauvaise nouvelle, hein, si vous avez prévu de prendre l'avion demain, 75% des vols restent annulés à l'aéroport d'Orly à Paris, 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce jeudi s'annonce donc très compliqué dans les aéroports et ce, malgré l'annonce par le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens qui indiquait qu'un accord avait été trouvé. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. À tout à l'heure.
Merci Mickaël, à tout à l'heure avec plaisir pour le rappel de l'actualité. Nous sommes avec toujours nos invités, avec Maître Pierre Gentil, avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, avec Kevin Bossuet, avec Elisabeth Lévy. Pardonnez-moi, et nous accueillons avec plaisir Denis Jacob. Bonjour à vous et merci d'être là, secrétaire général d'Alternative Police. Beaucoup de sujets à vous soumettre, mais tout d'abord, ça m'a interpellé dans le journal et je trouve que il faut le souligner, la réaction des autres élèves, des autres enfants à cet âge-là par rapport à ce collégien qui a donc menacé un enseignant à Toulouse. Il y a eu véritablement, là on peut parler d'un sursaut dans une classe, on a entendu. Je pense que c'est important aussi de mettre en avant, de valoriser ce genre de réaction.
Bien sûr, là la majorité l'emporte sur la minorité. Dans beaucoup de classes, vous avez des élèves qui sont terrorisés, qui sont apeurés parce qu'ils sont continuellement menacés par un petit groupe ou par un ou deux élèves. Et là, ils ont dit, il y en a marre, l'agression contre ce professeur est inacceptable, donc on te sort de la salle et on reprend le cours tranquillement. Ça s'appelle du civisme, et en effet, il faut valoriser cela. Et autre chose qui m'a alerté dans votre sujet lors du JT, c'est ces élèves qui ont la peur au ventre quand ils vont, notamment dans les établissements scolaires.
Élèves, certains ont la peur au ventre. Certains bien professeurs sûr. Ont la peur au ventre. Certains responsables.
Et mais moi, je peux vous dire concrètement que quand j'ai certaines classes, parfois, je ne suis pas forcément serein parce que je sais que potentiellement, ça peut déraper ou je peux avoir des difficultés à ce que l'ordre soit là. Mais on en est là, de l'appréhension après 10 ans de métier. C'est si long quand même.
Préciser que quand on dit agression, il vaut mieux dire ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il a giflé. Le professeur, et il l'a menacé en plein cours, il s'est levé, il a giflé ce professeur et il l'a menacé.
Vous ne trouvez pas, et c'est un peu une question que je pose à Kevin, dont les avis sont toujours pertinents tout de même, moi j'ai l'impression qu'on en fait des tonnes. Par moment, il y a une hystérie politico-médiatique sur une multitude d'incidents et qui font que des jeunes ont peur d'aller en classe. Il ne faut tout de même pas exagérer. Quoi.
Attendez. Là, il n'y a pas d'exagération. Il y a les chiffres, il y a les rapports, il y a Jean-Pierre Roubin, son inspecteur d'éducation nationale.
Pour vous, c'est un fait divers. Ça.
Mais je veux dire, il y a une certaine manière de parler surabondamment d'incidents qui les créent.
Philippe, vraiment, j'en suis persuadé. Philippe, quand vous avez des élèves...
Attendez. Vous voulez dire que le professeur a été giflé parce qu'on en parle beaucoup?
Non, je pense tout de même qu'il y a une manière de renchérir sur une actualité préoccupante. Je l'ai connu dans des affaires criminelles. Je crois qu'il y a une certaine manière de donner trop d'importance à des incidents du quotidien préoccupants
qui
ne les arrêtent pas, qui les engendrent. Il n'est pas normal que 4 personnes, 5 élèves sur 10 aient peur d'aller en classe.
Non mais Philippe,
franchement,
je vais parler d'un quotidien que je connais bien. Quand vous avez des élèves qui ont mal au ventre avant d'aller en classe. Et ce n'est pas un ou deux élèves, c'est des dizaines d'élèves qui préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller à l'école, qui dans une cour de récréation se mettent dans un coin parce qu'ils ont peur des autres. Quand vous avez des professeurs qui parfois se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ont peur d'affronter une certaine classe, qu'ils ne sont pas sereins, qui passent leur temps à faire de la discipline au lieu de faire de l'instruction, il y a un vrai problème au sein de l'école de la République. Évidemment que parfois ça se passe bien dans la majorité des cas, mais on ne peut pas nier cela, surtout que ça s'aggrave.
Vous êtes en train de rappeler, je vous assure, tout le monde le sait, nous sommes dans le pays où Samuel Paty a été égorgé et Dominique Bernard. Voilà. Donc je pense qu'on est loin.
Bon,
attendez, franchement, parce que là, on est loin. Je veux dire, si on en est à rappeler ça, là, la
non,
question
mais
c'est. Ce sont des attentats terroristes islamistes.
Non, mais pardon, ce sont des attentats terroristes islamistes, ça se trouve. Tout ce que vous voulez.
Mais non, pas tout ce que je veux. Pardonnez-moi, c'est pas des crimes. Ce sont des attaques terroristes contre des professeurs de la République. C'est pas des crimes. Non, je souffre quand vous n'employez pas les bons mots.
Mais je vous ai dit oui. Je vous dis simplement que je voudrais dire autre chose à propos de ce que vient de dire Philippe. Cette question de poser un diagnostic lucide, sans minimiser ni exagérer, elle nous est toujours posée. Je vais vous donner un autre exemple. Je pense que la flambée d'antisémitisme est absolument abjecte, réelle, liée au 7 octobre. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je pense néanmoins que ce n'est pas bien de dire que tous les juifs de France vivent dans la peur, parce que ce n'est pas vrai. Et évidemment, ce qu'on peut dire, quand vous parlez de votre expérience, ô combien pertinente, évidemment, vous n'en saignez pas n'importe où, ça n'est quand même pas toute la France. Donc Philippe a aussi raison quand il dit qu'il ne faut pas effrayer les élèves. Il n'a pas dit que le professeur était giflé parce qu'on en parlait. Il a dit les élèves. Moi, je pense par rapport. Cela dit qu'il faut en parler.
Moi, je pense que giflé, le débat,
il
est
faut
autre
en parler.
Mais, bon.
Mais je comprends que ce que vous dites, c'est
Elisabeth,
que...
des années de pas de vague. Des années. Pardonnez-moi. Tous les rapports qui ont servi à caler des tables. Quand, mais oui, mais pardonnez-moi.
Mais vous trouvez qu'on fait du pas de vague.
Mais pas vous. Il y a peut-être un mouvement du balancier où on peut peut-être trop en parler.
Mais la médiatisation, c'est pas le contraire du pas de vague.
J'entends. Mais je trouve que trouver l'équilibre dans un pays où il y a eu des attaques terroristes contre des professeurs. Moi, j'attends de savoir comment on les protège, plutôt de savoir est-ce qu'on en parle trop. Mais bon.
Moi, j'écoute attentivement ce que dit Kevin, parce qu'il est, en direct, et ce que dit Philippe. Un professeur giflé dans le contexte actuel, ça me semble être une information.
Ah oui, bien sûr.
Mais, pour le coup, je donne le mais, y a un effet de balancier, je reprends la formule, c'est-à-dire qu'on a, par le passé, il y a eu le pas de vague, ça c'est vrai.
Le déni, même.
Mais aujourd'hui, ça nous amènerait
passé,
peut-être...
que c'est fini
En tout cas, c'est moins possible.
C'est pas ce que disent ceux qui travaillent sur le sujet,
c'est moins,
sur le pas de vague.
Il me semble qu'en tout cas, il y a un léger progrès sur
j'écoute ceux qui
vous avez totalement raison. Mais il me semble, au moins avoir encore beaucoup d'amis, anciens collègues, ils me disent qu'ils se sentent un peu plus en capacité d'aborder certains sujets.
Bah, écoutez,
même si,
France Inter, le pas de vague existe encore.
Non, mais une marche a été dans des conditions effroyables. D'ailleurs.
Rapidement, ça fait des années qu'on luttait pour que ce genre d'affaires soit sur la place publique, pour qu'on trouve des solutions pour sécuriser aussi bien les élèves que les professeurs. Et là, vous avez des médias qui font leur travail. C'est News qui fait son travail, notamment en parlant de cela. Olivier a raison, c'est une information.
Je ne veux pas qu'on se mette en avant. Je préfère qu'on mette en avant, par exemple, un profil de gauche comme Jean-Pierre Aubin, qui a été extrême-droitisé, qui a été caricaturé, qui était inspecteur. Moi, que j'avais reçu sur Public Sénat il y a 14 ans de ça, j'avais reçu... Il s'était fait insulter.
Mais
qu'est-ce qu'il disait dans son rapport ? Ce qu'on est encore en train de dire
aujourd'hui.
Alors pardon, on a perdu 15 ans. Alors d'accord. Si on en parle trop, pardon, j'en prends ma responsabilité.
Je préfère. La question de trop en parler. En fait, ce que Philippe relevait, c'était la peur des élèves qui nous a tous frappés.
Il ne faut pas essentialiser. Pas tous les élèves.
Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler parce qu'un professeur giflé, au contraire, ça... Il faut en parler parce qu'en plus, c'est un symbole d'une inversion d'une inversion complète des valeurs. Donc il faut en parler. Mais ce que Philippe disait, que je trouvais juste, j'ai pas de réponse. Il pose une question qui est légitime. Quand on entend même parler d'une réalité qui existe et qu'on a l'impression que c'est ce qui dévore tout le reste, si vous voulez, ça fait peur à tout le monde. Bien. Voilà, bon, c'est pas ce qu'il faut en faire de ça.
Je voudrais qu'on se rende à Grande-Synthe, avec vous, Denis Jacob, et vous tous, parce que l'émotion est très forte. Se place, nous sommes à une demi-heure de l'organisation du début des obsèques de Philippe, 22 ans, en l'église de Grande-Synthe. Il y a eu, il y a quelques jours, c'était vendredi, une marche blanche extrêmement suivie, avec beaucoup de dignité, mais aussi une colère froide, c'est le mot qui est ressorti. Est-ce que c'est le cas également, on l'imagine, Maxime, sur place ?
Oui, bonjour Sonia. Effectivement, c'est une ville toujours sous le choc et endeuillée qui s'apprête à rendre hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime d'un guet-apens mortel, une agression d'une violence inouïe qui l'avait plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Mais après, la sidération et l'effroi placent désormais au recueillement ici à Grande-Synthe. Les obsèques se dérouleront dans cette église Saint-Jacques que vous pouvez apercevoir derrière moi à 14h30 en cercle restreint. La famille, des proches et puis quelques anciens camarades de lycée de Philippe pourront assister à cette cérémonie. Mais on sait d'ores et déjà qu'ils sont nombreux les habitants de Grande-Synthe qui vont venir se réunir et se recueillir devant cette église pour lui rendre hommage. La seule consigne qui a été donnée par la famille est de ne pas venir vêtue de noir, couleur traditionnelle du deuil, mais de porter des vêtements de couleur symbolisant la vie, à l'image de Philippe qui était un jeune homme qui incarnait la joie de vivre.
Merci à vous Maxime Le Guay. Nous serons évidemment en direct tout à l'heure avec certainement beaucoup de monde, beaucoup d'émotions autour de la famille de Philippe, de l'entourage. Et puis plus largement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, à faire très attention parce que l'heure est toujours à l'émotion, même si des questions se posent, il ne s'agit pas de pointer de responsabilité, mais de comprendre un discours qui a été tenu par certains élus, notamment en Grande-Synthe, sur un vivre ensemble qui est certainement réel, même si je n'aime pas cette expression quelque part, dans certaines zones, mais manifestement pas partout. Oui. Est-ce qu'on peut interroger, moi j'ai entendu l'élu de Grande-Synthe qui a dénoncé... comme il dit, la fachosphère ou l'extrême droite. Je pense que là, la priorité, c'est de dénoncer quand même ceux qui sont suspectés, et me semble-t-il.
Vous mentionniez en même temps que vous faites ça, l'étiquette aussi de ce maire, qui, si je ne m'abuse, est socialiste. Et les socialistes, pardonnez-moi de vous le dire, ont une part de responsabilité dans le vivre ensemble que nous avons dû, qui est un petit peu soit vivre, soit ensemble.
Je ne fais pas le lien direct, parce que là, attention, mais je m'interroge sur les propos qui sont tenus.
Je ne dis pas qu'il a une responsabilité. Enfin, je ne dis pas qu'il a une responsabilité directe. C'est pour ça que je vous mentionnais l'étiquette et je vous mentionnais le parti socialiste. Mais en l'occurrence, effectivement, on voit que dans son discours, il préfère pointer un ennemi imaginaire qui n'a jamais été aux responsabilités. Parce qu'il parle de l'extrême droite. Je ne sais pas s'il parle du Rassemblement national, peu importe. Mais il n'a pas été responsabilité. Et c'est pour ça que je mentionnais le parti socialiste, parce que lui, ce parti politique a été aux responsabilités et la situation s'est aggravée. Donc aujourd'hui, évidemment, ils ne vont pas regarder leur bilan, ils vont avoir les œillères. Et scoop, je pense que ça va continuer année après année. Voilà.
Denis Jacob, on a insisté tout à l'heure, vous n'étiez pas présent lors de la première heure, d'abord sur le profil de ces deux mineurs suspects, mais aussi sur l'entourage familial. Je ne sais même pas s'il faut dire famille dans ce cas-là, tellement c'est vraiment c'est un père qui est en prison, une mère qui est impliquée dans un trafic de stupéfiants. Est-ce que ce contexte-là, même s'il n'y a pas du tout d'excuses, hein, il ne s'agit pas ici de développer encore moins ici la culture de l'excuse, mais est-ce que ça interroge quand même ?
Bien sûr que ça interroge. Alors moi, je ne suis pas psychologue, hein, parce qu'il faudrait surtout demander l'avis d'un psychologue en la matière. Mais je pense qu'un enfant se construit sur l'exemple donné par les parents, quand même, à la base. Donc un enfant qui a grandi dans un environnement familial de parents délinquants récurrents de manière habituelle, on peut craindre que, potentiellement, ce gamin ne suive que l'exemple de ses parents. Et même pire, puisque là, en l'occurrence, il a commis... Il a quand même commis un crime.
Donc la question
en
de
tous les cas, il est suspecté d'un crime.
Ces enfants auront deviendront des adultes, auront des enfants, et ces enfants prendront exemple. Par exemple, ces deux mineurs, quand ils auront des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire qu'un jour ils ont massacré quelqu'un?
Je ne veux pas qu'on déforme mes propos non plus. C'est pas parce qu'on a des parents qui sont dans la délinquance que l'enfant va devenir délinquant.
Un excès de bienveillance peut aussi conduire à des choses tout à fait horribles.
Mais malheureusement, il n'a pas eu un environnement stable et serein pour avoir une enfance normale.
On va continuer à en parler. Les titres avec vous, cher Mickaël.
Merci, Elisabeth.
Une fratrie de délinquants expulsés d'un HLM de Taverny dans le Val d'Oise. Ils faisaient vivre un enfer aux habitants, connus notamment pour des vols en réunion avec violence, escroquerie, mais aussi pour l'usage, la détention et le transport de stupéfiants. La maire PS d'Avignon, Cécile L, tire la sonnette d'alarme et réclame des renforts de police face à une menace permanente sur les habitants qui ont peur, dit-elle, pour leur vie et celle de leurs enfants. Elle dénonce un regain de violence insupportable lié au trafic de drogue. Et puis les obsèques de Philippe auront lieu à 14h30 à Grande-Synthe. Des centaines de personnes sont attendues alors que l'enquête se poursuit. Deux mineurs ont été mis en examen et placés en détention pour assassinat.
Bien nous, merci Mickaël. Nous parlerons de cette maire socialiste d'Avignon qui tire la sonnette d'alarme sur l'enchaînement des règlements de compte et la violence. Ce n'est pas anodin. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire réagir à ce qui se passe dans le Val-d'Oise. Et quand quelque chose marche, mettons-le aussi en avant. C'est pour ça que je voulais parler à l'école, parce que quand vous avez une classe qui réagit, c'est très très bon signe. Enfin, voilà. Et ça donnera des adultes qui, un jour, peut-être dans le métro, s'il se passe quelque chose et qu'une personne se fait embêter, ne vont pas rester à regarder.
Et ça arrive, d'ailleurs.
Et ça arrive. Bon. Alors, le tribunal judiciaire de Pontoise, Philippe Bilger, a mené ce qu'on appelle une action civile spécifique pour permettre l'expulsion d'une fratrie à la suite des actes graves de délinquance à proximité de son habitation. Le logement social sera donc attribué à une autre famille et, accessoirement, les habitants à côté vont pouvoir vivre leur vie paisiblement, enfin, même s'il y a probablement d'autres cas dans le viseur. Je voudrais simplement préciser cette fratrie, de quoi elle est responsable. Parmi les faits cités, vol en réunion avec de la violence, dégradation et vandalisme dans un établissement scolaire, usage de tension et transport de produits stupéfiants. Ce que disent les élus qui ont entrepris cette action, avec tout le travail administratif derrière, qu'il n'y a aucune pitié pour cette fratrie qui s'est rendue coupable de cela. Donc elle va chercher, comme d'autres Français, un autre logement. Regardez le sujet et vous me dites ce que vous en pensez.
Sur ces images diffusées par la préfecture du Val-d'Oise, des policiers expulsent une fratrie de son logement social à Taverny. Dans son message publié sur le réseau social X, la préfecture énumère les actes graves de délinquance qui ont conduit les autorités à prendre cette décision. Vol en réunion avec violence, dégradation et vandalisme dans un établissement scolaire proche, usage, détention et transport de produits stupéfiants et escroquerie en bande organisée. La maire de la commune pointe du doigt la responsabilité des parents, déjà convoqués deux fois après des méfaits commis par leurs enfants.
La première fois pour le fils aîné, il s'était présenté. La deuxième fois pour le fils mineur, qui d'ailleurs n'est devenu majeur qu'en août 2023. Et là, ils ne se sont pas présentés. Ils n'ont même pas répondu à la convocation. Donc on a clairement des gens qui n'en avaient strictement rien à faire de devoir répondre à l'autorité locale, à devoir répondre à des convocations, à devoir répondre des actes de leurs enfants.
Pour obtenir la résiliation du bail par le tribunal judiciaire de Pontoise, la préfecture explique avoir mené une action civile spécifique en lien avec la ville de Taverny. Une action saluée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Le message est clair, les délinquants doivent savoir que la solidarité nationale n'est pas automatique.
La fratrie a été expulsée en dehors du département et devra trouver un logement par ses propres moyens. Le logement social sera lui attribué à une autre famille.
Il faut savoir que ça
pardon
se sait.
Pardon. Pardon de chipoter en permanence médiatiquement ce lien sur d'excellentes nouvelles. Que cette famille ait été expulsée, si j'ose dire, d'un logement social, c'est très bien. Moi, je m'interroge sur les malheureux qui cohabiteront, coexisteront avec cette famille qui, lorsqu'elle aura trouvé un logement qui, pour n'être pas social...
On ne va pas les rendre SDF, ils ont le droit d'habiter...
Eh bien, non, mais ça montre bien que l'alternative telle qu'elle est posée, elle n'est peut-être pas très cohérente. On les expulse d'un logement social, on se débarrasse d'eux quelque part où ils créeront exactement... les mêmes désagréments.
Ça, pénal,
et c'est
Philippe.
Un euphémisme.
On paye pour le rapport.
L'autre plateau de la balance, ça aurait été de régler autrement le problème. Cette famille-là, à un moment donné, il aurait fallu accepter de la sortir judiciairement un petit peu du circuit social.
Moi, je trouve très bien que Philippe mette du sel sur nos plaies. Mais vous savez que ça ne se sait pas beaucoup que dans le contrat, dans un bail avec le bailleur social, il est stipulé dans ces contrats que si les familles se comportent de manière désastreuse et portent atteinte à l'ordre public, elles peuvent être expulsées, bien évidemment.
Mais si nous étions c'est très rarement, dans un pays où il suffit d'appliquer la loi pour être tranquille, ça se saurait, oui, cher ami. Mais votre argumentaire est bienvenu, non, n'est-ce
mais,
pas ?
Donc ça existe. Mais c'est très rarement appliqué pour différentes raisons.
Jamais.
Ceux qui aujourd'hui dénoncent cette mesure, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux se drapant dans des valeurs dites progressistes, devraient penser aux familles qui habitent de Tours et qui ont leur vie pourrie du matin au soir par le contrôle de deal, par la menace, mais par le désordre.
Dites-le à une certaine gauche.
Non, mais j'en ai vu certains. Et donc, il est parfaitement normal que les habitants des quartiers populaires puissent être protégés de comportements d'une ultra-minorité, Olivier, parce que des fois, il y a les maires de quartiers populaires qui me disent « Mais tu sais, Olivier, on est embêtés par 3-4 familles. »
Mais vous avez raison.
3-4
familles. On n'a pas payé
pour ça. Une certaine gauche ne s'est pas saisie de ces sujets depuis très longtemps.
Et donc, je trouve que c'est une bonne mesure.
Non, mais c'est-à-dire, vous avez raison. Et franchement, et même toute la gauche, à un moment ou à un autre, était dans cette espèce d'idéologie de la bienveillance, de l'excuse, de tout ce que vous voulez.
Pas que la gauche,
d'ailleurs. Mais la réalité, vous avez... Philippe a raison de poser le problème de qu'est-ce qu'on en fera. Il y a quand même une chose, c'est qu'on ne va pas en plus payer. Je vous rappelle que quand quelqu'un a un logement social,
Allez-y,
ça veut dire qu'on paye pour ça.
Je vais juste donner une précision supplémentaire. C'est-à-dire que là, on parle d'un cas a posteriori.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on va retirer le logement social une fois qu'une infraction a été commise. Or, je me suis un petit peu renseigné avant, à ma connaissance, il n'y a pas d'automaticité au moment où on attribue un logement social à la communication du casier judiciaire. Or, ici, ce qu'un politique devrait proposer, ce serait l'impossibilité, et ça n'existe pas aujourd'hui, l'impossibilité pour une personne condamnée pour un délit, notamment, d'obtenir un logement social.
Parce que si tu as été condamné par un délit, tu as payé.
Comme ça, tout le monde peut avoir la
parole. Tu as été sanctionné.
Oui, mais la solidarité nationale n'a pas... Non, mais la solidarité... Mais non, ici, on sanctionne. Mais là, c'est le même sujet. Ici, ici, on sanctionne aussi. La solidarité nationale n'a pas à donner ses faveurs à des gens qui ont été condamnés. Surtout, par exemple, pas ad vitam aeternam, mais au moins pour un délai de 3 à 5 ans.
Non, mais on ne peut pas faire ça, c'est un principe de...
Ah si, on peut, politiquement, on peut.
Non, mais après, quand vous avez été sanctionné par la justice, on ne va pas vous sanctionner socialement.
Mais c'est quoi
le sujet?
Alors
à ce moment-là, vous allez dans une entreprise,
c'est le même sujet.
On ne va pas vous embaucher.
C'est le même sujet.
Non, par contre, là où il faut agir, c'est sur la complexité aujourd'hui des procédures d'expulsion. C'est très long. Le cas qui est cité aujourd'hui, ce n'est pas un cas unique, il y en a déjà eu beaucoup auparavant. Mais le problème, c'est la longueur du temps de traitement de la procédure d'expulsion qu'il faut revoir. Vous avez déjà le principe de la trêve hivernale. Dans ce genre de situation, la trêve hivernale devrait sauter, par exemple.
Je ne sais pas si on se rend compte, si on était voisin de cette fratrie,
Moi, je l'ai connu en cité avec une famille de délinquants. J'habitais en cité pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est qu'une cité. Cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine, je connais très bien. Donc, moi, j'ai vécu avec une famille qui vivait au-dessus de chez moi, où ça fracassait toutes les nuits. Je me suis retrouvé, pour avoir râlé un peu, avec le pare-brise de la voiture cassé. Donc, à un moment donné, il doit y avoir des mesures d'exception, mais on ne peut pas non plus, parce qu'une personne a été condamnée, aller appliquer un principe de double, de triple, de quadruple peine.
On va marquer une pause, s'il vous plaît, chers amis. Je vous remercie. Une pause, vous aurez l'occasion d'en reparler.
C'est moi qui suis
d'accord. En retour de publicité, c'est le principe. Je vous remercie. À tout de suite. Merci d'être avec nous. On va rester encore un peu dans le Val-d'Oise avec cette fratrie expulsée d'un HLM. Vous allez préciser ce que vous vouliez dire, Denis Jacob. On écoutera aussi le préfet du Val-d'Oise. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
Mauvaise nouvelle si vous avez prévu de prendre l'avion demain. 75% des vols restent annulés demain à l'aéroport d'Orly à Paris et 55% à Roissy Charles de Gaulle. Et ce, malgré un premier accord avec le syndicat majoritaire. Bruno Le Maire a présenté une série de mesures pour simplifier la vie des entreprises. Fiches de paye simplifiées, réduction des délais. Le ministre de l'économie souhaite, je cite, « débarrasser les patrons de la paperasse », dit-il. Et puis un plan de 95 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, mais aussi d'Israël et de Taïwan. Après la Chambre des représentants, le Sénat américain a adopté cette nuit une importante enveloppe d'aide très attendue.
Merci à vous, Mickaël. Alors, écoutons justement le préfet du Val-d'Oise qui répond à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, on expulse cette fratrie à problème, plus qu'à problème, et qui va, si je puis dire, la récupérer en tant que voisin. Écoutons-le.
Je pense que les Français ne comprendraient pas
qu'on reloge dans le parc social une famille comme celle-ci. Un parc social, logement social, c'est un logement qui est aidé à la construction et qui est également aidé à la location, vous savez, au travers des APL que le contribuable finance. On a 80 000 familles qui attendent des logements sociaux en Ile-de-France, donc ce logement sera rattribué à une famille paisible. Non, cette famille, elle va faire comme beaucoup de Français, elle va devoir chercher un logement par elle-même dans le parc privé.
Denis Jacob, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'on a eu une incompréhension. On ne s'est pas bien compris dans les propos tout à l'heure quand je disais qu'il ne fallait pas appliquer un principe de double peine. C'est-à-dire que, bien évidemment, il n'est pas question d'aller refuser un logement classique à une personne qui a été condamnée. Pour autant, le logement social, effectivement, il va quand même à ceux qui en ont réellement besoin, qui sont dans l'attente. Ça vient d'être dit dans le reportage. 80 000 familles sont en attente d'un logement social et que c'est très, très long pour en obtenir un. Je sais de quoi je parle. Quelques années, bien souvent. Et donc, bien évidemment, que dans ce cas de figure de délinquants, l'attribution d'un logement social ne serait pas possible.
Une chose que je voulais préciser, il faut aussi clarifier les modalités d'attribution des logements sociaux. C'est important parce que j'ai le souvenir.
Il faut tout clarifier.
D'une maman qui était toute seule avec son enfant, qui demandait un logement social depuis 15 ans, et à chaque fois, on ne lui attribuait jamais.
C'était des familles qui venaient
d'Afrique, etc., qui avaient une priorité là-dessus, et elles ne comprenaient pas, et ça crée du ressentiment.
Ce qui est grave dans les logements sociaux, vous l'avez vu avec le rapport de Michel Aubin, c'est surtout qu'une fois que vous y êtes, rien ne vous oblige, la loi vous permet d'y rester.
On va prendre la direction d'Avignon. Ça m'intéresse parce que c'est une élue socialiste. Une idylle socialiste, la maire PS d'Avignon, qui a écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour dénoncer les règlements de comptes qui s'enchaînent. Elle estime que c'est la mission régalienne, la prérogative de l'État, que de protéger les citoyens d'Avignon. Alors ce n'est pas la première fois que Cécile, elle, monte au créneau. Elle l'avait déjà fait après des fusillades, certaines ayant coûté la vie à des jeunes administrés. Donc là encore, violence des plus jeunes. On va écouter à ce sujet un syndicat policier de la région.
Je vais dans son sens. Plus il y a d'effectifs au niveau du commissariat d'Avignon, et voire peut-être même sur le département, puisque je pense également au commissariat d'Orange, de Carpentras et de Cavaillon, plus la sécurité sera renforcée, plus les gens qui habitent sur ce secteur et sur le département dans son ensemble, et plus précisément Avignon, seront plus sécurisés. Il y a peut-être pas assez d'effectifs, puisque la violence augmente et on a eu bien sûr notre lot sur le département ces dernières années. Et on voit que ça augmente de plus en plus au niveau de la délinquance et que quelque part par rapport à ça, il faut une réponse.
On est passé de certains maires de gauche qui ne voulaient absolument pas, qui ne voulaient pas forcément des bleus dans leur rue, à maintenant il faut beaucoup de bleus. Comment vous voyez cette évolution, Denis Jacob ?
Là, de toute façon, il y a un vrai problème de sécurité sur ces villes, c'est clair. Alors, Avignon, ça me touche pas plus particulièrement.
C'est incroyable, Avignon, quand même, l'évolution.
Tous les policiers, je le rappelle,
c'est
Avignon où un de nos collègues a été tué il y a quelques années. J'entends ce que dit la maire d'Avignon. Après, pour être très franc avec vous, avant de venir, ça m'a interpellé et j'ai vérifié quand même l'actualité parce que je n'ai pas entendu parler de règlement de compte à Avignon ces derniers jours. Il y en a eu en février, effectivement. Et depuis, il y a plusieurs opérations place nette qui ont été conduites avec des interpellations, des saisies de drogue. Alors, ça ne veut pas dire, vous connaissez ma position, les opérations place nette ne régleront pas tous les problèmes. Ça va les régler dans un moment ponctuel, mais sur le long terme, il faudrait y être quotidiennement. La problématique d'Avignon, de Cavaillon, du Vaucluse en général, et puis de la région sud notamment, pose des problèmes de violence, de délinquance, de criminalité sur fond de trafic
vous avez
de drogue.
Raison, mais est-ce que l'une des solutions, c'est plus de bleus ? Moi, j'aimerais que ces mêmes élus fassent une autre évolution, c'est-à-dire parlent d'une forme, pour certains, de laxisme pénal. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous démultiplier partout. C'est pas
plus,
ça la solution.
Le plus de bleus, ça va faire 30 ans que je l'entends. On l'a eu sous tous les gouvernements. Dans les années 90, il y avait 96 000 policiers. Aujourd'hui, policiers, gradés et gardiens. Aujourd'hui, vous en avez 106 000. Donc vous en avez 10 000 de plus. Et on nous en annonce, policiers et gendarmes, 8 500 de plus à l'horizon 2027-2030. Donc du toujours plus, oui, pourquoi pas. mais il faudrait aussi repenser l'organisation, le fonctionnement, les missions. Parce qu'à force de superposer toutes les missions que les policiers ils ont, on finit par...
D'accord, mais c'est un révélateur de ce qui se passe à Avignon. Moi, j'y suis souvent allée pour des dédicaces de livres dans d'autres contextes. C'est incroyable. Et puis j'ai vu en plusieurs années, vraiment, c'est visible. Et quand on n'y habite pas, on voit plus que quand on arrive l'évolution d'une ville à Avignon.
Malheureusement, Sonia, c'est pas qu'Avignon, quoi. Enfin, je veux dire, le problème, il est partout.
J'aimerais juste exprimer un désaccord avec vous. Tout ce que je lis, tout ce qu'on peut entendre sur les opérations PlaceNet me semble être essentiellement des opérations de communication politique, parce que les organisateurs même de ces points de deal nous disent, on a eu un témoignage édifiant sur un plateau de CNews, nous disent, mais nous, ça ne nous dérange du tout, dès le lendemain, le trafic reprend, et y compris des fonctionnaires de police disent, on n'y croit absolument pas. Olivier, c'est-à-dire, il nous faut une présence pérenne des forces de l'ordre, une sécurité.
J'ai pas dit autre chose, Olivier.
Ah, pardon.
J'ai pas dit autre chose. Mais, les opérations PlaceNet ne sont pas la solution.
Mais c'est un début.
Il faut, là, aujourd'hui, il faut répondre à un problème. On est confronté à un trafic de stupéfiants. Donc, il faut sortir ces délinquants.
On
est
confronté à une mafia qui s'installe.
Bien sûr. Oui. Donc, ça, il faut l'éradiquer. Mais une fois qu'on l'a éradiqué ou qu'on a essayé de faire sortir ça, il faut qu'on reste de manière pérenne.
Ça m'intéresse. Alors, on éradique un trafic. Et comment on éradique des méthodes dignes de la mafia, mais de la pire des mafias qui va avec?
Les opérations PlaceNet aujourd'hui, c'est pas pour éradiquer la mafia, c'est pour éradiquer les points de deal.
Oui, c'est ça.
C'est pas la même chose.
Pour la tranquillité des habitants.
C'est pas la même chose. C'est-à-dire, il faut rassurer la population, il faut tranquilliser un quartier pendant un certain nombre de jours.
Denis Jacob, dans les ports français, ça continue de couler à flot.
Ah ben, vous avez ce genre, tout ça, là, les trafics, les stupéfiants qui arrivent dans les ports, les réseaux installés dans plusieurs quartiers, ça demande une enquête au long cours, ça demande de l'investigation, de la police judiciaire. C'est pas le bleu qui va régler ce problème de trafic. Remonter à la tête d'un réseau, c'est un travail de police judiciaire.
Et là,
les opérations PlaceNet, c'est s'attaquer à la partie émergée de l'iceberg.
Pardonnez-moi, juste, je précise, je vais vous donner la parole tout de suite à nos téléspectateurs. Il y a eu des magistrats marseillais qui ont dit des choses incroyables, qui ont rejoint enfin votre diagnostic.
Tout à fait.
Il y a aujourd'hui les ports français qui sont submergés. Il y a des cas de corruption qui sont graves et qui peuvent même parfois toucher des élus. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de gangrène qui est inédit dans notre pays. C'est pas simplement des place-nets du quartier à côté pour, et c'est important, garantir la sécurité et la tranquillité des habitants. C'est beaucoup plus profond.
Bien sûr, mais tout de même, je ne vous contredis pas, Denis, évidemment, mais on n'a pas un État à ce point actif qu'on puisse cracher sur un commencement d'action avec place-net. Deuxième, sur Avignon, je trouve formidable que cette maire socialiste dénonce ce qu'elle constate tous les jours dans sa ville. Et troisième élément, ça montre aussi à quel point une définition simpliste de la gauche sur le plan de la sécurité est absurde.
Mais Philippe, s'il dénonce, pourquoi n'acceptent-ils pas tous unanimement d'armer leur police municipale?
Mais parce qu'il y a dans le lot, ma chère Sonia, comme dans l'univers médiatique, tout le monde n'est pas forcément exemplaire.
Mais Philippe, une chose par rapport au PlaceNet. Est-ce que vous ne jugez pas, vous dites, oui, mais c'est déjà mieux que rien. Est-ce que vous ne jugez pas qu'une opération de communication qui donne l'illusion de l'action, c'est quelque chose qui est très...
Mais qui est dans l'illusion? Pas les Français.
Pour moi, c'est une illusion d'action.
Vous avez raison.
Non, alors, si je peux me permettre.
Il y a un peu d'action.
Qu'il y ait une opération politique de communication, je pense que tout le monde est d'accord. Pour autant, ça donne quand même du sens au travail des policiers. Parce que, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, quand un policier tourne dans une voiture à trois et qui passe dans le quartier, qui ne s'arrête pas parce qu'il sait qu'il va se faire lyncher, et qu'on y retourne à 50, à 60, à 100 pour interpeller les trafiquants qui la veille vous ont bombardé, croyez-moi, ça redonne du sens, au travail de nos collègues, et croyez-moi, ils en sont très contents.
Vous avez raison, je suis restée scotchée par les propos du ministre de l'économie qui affirme, et sûrement a raison, que certains de ces trafiquants ont plus de moyens que des États, qu'ils ont des sous-marins.
Bien sûr.
Les sous-marins. Oui. Donc PlaceNet et PlaceNet dans les mers aussi. Alors,
c'est pas sur des points de deal.
Moi, je vous trouve.
Évidemment, vous avez
la profondeur, là, c'est le cas de le dire, quand même, de ce qui nous menace.
Oui.
Gérald Darmanin dit là, c'est la mer des batailles. Donc, vous avez raison. PlaceNet, c'est le début
C'est comme ça. Oui. La question est de savoir si c'est vraiment. La question est de savoir si les opérations. Je n'ai pas de réponse, mais si les opérations Place Net, si vous voulez, permettent ou ont un quelconque lien avec la lutte contre ces réseaux qui, comme vous le dites, sont plus forts
que les autres. La question est jusqu'où le gouvernement peut aller sans déstabiliser un écosystème et provoquer des émeutes.
Oh, mais j'ai pas de réponse.
Moi, je vous trouve quand même dur vis-à-vis de Gérald Darmanin. S'il ne faisait rien, je suis d'accord, on lui aurait dit qu'il ne fait rien. Et là, il fait des choses.
On ne dit pas qu'il fait rien.
Et avec quand même, il y a des saisies, il y a des arrestations, il y a des condamnations. Donc ça va plutôt dans le bon sens.
Je suis d'accord avec toi, Kevin. Juste, je suis tout à fait d'accord. C'est bien que le ministère.
Mais d'accord, on n'est pas là pour distribuer les bons points. Moi, je veux savoir si on va régler un jour.
Mais
le problème.
Non, mais justement.
On est tous d'accord, c'est bien.
Non, mais ça nous interroge.
C'est bien d'être déjà en prison.
Non, mais je dis c'est bien parce que généralement, on critique. Enfin, moi, je critique tout le temps le gouvernement. Oui. Voilà, je le dis.
Non, mais ça, donc, c'est pas notre
donc, c'est bien.
Rôle.
Non, mais je parlais pour moi parce que c'est Kevin, Kevin que je répondais.
C'est vrai, d'ailleurs, j'ai remarqué.
Ce que je voulais vous dire. Si vous permettez, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne doit pas détacher ces interventions Place Net du contexte dans lequel elles interviennent. D'accord, premièrement. C'est-à-dire un contexte d'élection européenne. Ce n'est pas anodin. Deuxièmement, le ministère Darmanin est en
alors, dans ce cas-là, on fait rien. On est en élection tout le temps dans notre pays.
Pardon ?
Attendez, on est en élection, on est en période électorale quasiment tout le temps dans notre pays. Dans ce cas-là, on fait rien.
Non,
dites-moi, c'est 6 mois avant.
On n'était pas en période électorale l'an dernier, excusez-moi. On n'était pas en période électorale en 2021.
Ah, d'accord, donc.
Si, en 2021, on l'était. Mais, excusez-moi, ça fait combien de temps que Gérald Darmanin est aux responsabilités ?
Longtemps.
Voilà.
C'est pas trop, longtemps j'ai dit.
Si mais le paradoxe, si est, il est valable, Gérald Darmanin, moi
s'il vous plaît,
rejoins,
on doit aller
Kevin,
à Grande-Synthe.
Et en même temps, on a le sentiment d'une impuissance de l'État.
Philippe Bilger, c'est et très tout, s'il vous plaît, il nous reste quelques minutes, c'est très très important ce qui se déroule à Grande-Synthe. Avec l'émotion et la colère froide de ce qui va se passer dans quelques instants, ce sont les obsèques de Philippe, 22 ans, je vous le rappelle, qui a été lynché à mort, probablement dans le cadre d'une affaire de... guet-apens, notre journaliste Maxime Le Guay est sur place. Maxime, c'est à 14h30 en l'église de Grande-Synthe et vous êtes en face de cette église. On voit quelques personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Évidemment, l'émotion est forte. Je disais colère froide et déjà quelques réactions à votre micro.
Oui Sonia, tout à fait. Quelques habitants qui ont commencé à se réunir et se rassembler devant cette église Saint-Jacques. C'est toute une ville endeuillée et sous le choc encore qui s'apprête à rendre hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime d'un guet-apens mortel, une agression d'une violence inouïe qui l'avait plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Alors plusieurs sentiments se mélangent ici. Après l'effroi et la sidération, c'est désormais effectivement une colère froide, une grande peine aussi qui prédomine à Grande-Synthe. Écoutez justement cette habitante qui va assister aux obsèques et qui vient tout juste de réagir à notre micro.
Déjà en tant que maman, c'est très compliqué. On est entre la colère, l'incompréhension, la tristesse. Et puis il faut être là, il faut se soutenir. Moi j'habite la rue parallèle à celle de la maman de Philippe et de ses frères. Donc voilà, un acte pareil, on ne peut pas rester inhumain par rapport à ça.
Des obsèques qui se dérouleront dans cette église en cercle restreint. La famille, des proches et puis d'anciens camarades de lycée de Philippe pourront assister à la cérémonie. Mais on sait d'ores et déjà qu'ils sont nombreux, les habitants de Grande-Synthe, qui vont affluer, commencer à se rassembler devant cette église pour eux aussi lui rendre hommage.
Merci Maxime Le Guay. On va suivre tout cela avec vous évidemment tout à l'heure. Et pour l'heure, ce sont les titres avec vous, cher Mickaël.
L'inquiétude des salariés du groupe Casino. Plus de 3000 postes sont menacés au sein de l'entreprise. Le projet de réorganisation prévoit 1293 suppressions d'emplois, dont 554 rien qu'à Saint-Étienne. Qu'est-il arrivé à Kenji Girac ? L'enquête se poursuit. Les premières expertises révèlent que la balle qu'il a touchée aurait été tirée dans sa caravane. Et pour le moment, l'hypothèse du tir accidentel reste privilégiée. Et puis ces images en Grèce, un spectaculaire nuage de sable du Sahara a envahi le ciel d'Athènes, du jamais vu depuis 2018. Le phénomène devrait commencer à s'estomper dans le courant de la journée.
Merci Mickaël, on va clore cette émission avec les images en direct depuis Grande-Synthe, devant l'église où vous sont déroulés, pardonnez-moi, les obsèques, les funérailles de Philippe, 22 ans. Il est annoncé beaucoup de monde, autant ou presque, en tout cas je ne sais pas, que la marche blanche de vendredi. Je pense que c'est l'occasion de rendre hommage d'abord à la mémoire de ce jeune homme, à sa famille aussi, beaucoup de dignité dans la marche blanche, beaucoup de la part des habitants également, et quand même un contexte sécuritaire qui n'est pas évident, hein, puisqu'on rappelle qu'il y a eu un renfort sécuritaire après l'agression du cousin de l'un des suspects. Voilà ce qui s'est passé, probablement dans un contexte de vengeance. Je vous remercie. Merci d'avoir été nos invités. Je vous dis à très bientôt.
Merci.
C'est un plaisir. Restez avec nous, évidemment. Beaucoup d'émotions et tout cela, on va le vivre ensemble sur CNews. Je vous dis à demain avec grand plaisir à partir de midi.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.